je ne referai pas une instruction un peu sur la vie de Madame Tangari. Vous avez déjà entendu ou entendu les cassettes, mais je voudrais insister peut-être sur l'enseignement qu'elle nous a laissé, l'exemple qu'elle nous a laissé, les leçons qu'elle nous a laissées sur la vie spirituelle, puisque nous sommes durant le carême, essayons d'en tirer profit. Avant de commencer sur ces notions de vie spirituelle, je voudrais vous donner quelques précisions sur sa vie. C'est en train d'être traduit un livre qu'elle avait écrit, malheureusement qu'elle n'avait pas terminé, ses mémoires de prison, lorsqu'elle a été arrêtée et mise en prison en Tchécoslovaquie. Je voudrais vous lire quelques passages qui peuvent nous aider le plus à mieux la connaître. Elle raconte au début de son livre son arrestation. C'est le jeudi de la semaine de Pâques, le 15 avril 1971. Alors ne pensons pas que si elle a été en prison, cela date depuis très longtemps. Bien sûr qu'elle a, à la fin de la, durant la guerre, elle a été en prison, la dernière guerre, mais 71, Écône était déjà fondée à cette époque-là. Le 15 avril 1971, je quittais Vienne de bon matin par l'autobus pour Prague. J'emportais quelques valises pleines de cadeaux de Pâques, car depuis 7 ans, je partais aussi souvent que possible, mais surtout au temps de Noël de Pâques, de l'autre côté, pour apporter à mes amis des cadeaux et toute autre forme d'aide. Je n'avais jamais eu de difficulté à la douane durant les années précédentes, bien que j'ai eu parfois jusqu'à 15 valises. Nous savons qu'elle apporte des choses, dit un jour un officier des douanes au chauffeur, mais nous n'avons aucun intérêt à l'empêcher. C'est la dernière fois donc qu'elle passe la frontière avec les pays de l'Est. Elle est à peu près ce qu'elle disait, qu'elle a passé 100 fois le rideau de fer pour aider les chrétiens persécutés derrière le rideau de fer. Et dans ses écrits, elle est toujours très discrète, disons, sur ce qu'elle pouvait faire. Mais elle m'a raconté une fois, je vous l'ai peut-être dit déjà, bon, elle prenait le car de Vienne, mais des fois elle partait aussi par le train. Et elle prenait un compartiment de wagon-lit pour pouvoir loger ses 15 valises, c'était pas évident. Et elle m'a dit que plusieurs fois, les douaniers lui ont fait ouvrir ses valises et ont vu qu'elle avait, par exemple, des chapelets en quantité ou des images. Alors, des paquets entiers d'images de la Sainte Vierge, de saints. Il prenait une image et lui disait « pas plus de 10 ». Elle ne répondait rien, elle se mettait à genoux, elle priait. Elle m'a dit « à chaque fois, les douaniers ont refermé la porte du compartiment et l'ont laissé passer ». Alors, lorsqu'elle dit que ça se passait tout seul, c'était aussi en raison de son courage et surtout de sa foi et de ses prières. Ce jeudi matin, je n'arrivais, comme tant d'autres avant et après moi, que jusqu'à la frontière tchèque. Là eut lieu un contrôle rapide et minutieux, après lequel on m'enleva mon passeport, mon argent et toutes mes affaires. L'autobus pour Prague, presque vide, reçut le signal du départ. Une voiture de police prit sa place. Des policiers en civil très nombreux, comme jaillis de terre ou d'une pochette surprise, en sortirent et m'entourèrent. Je regardais de l'autre côté de la frontière autrichienne. Ah, si proche, si abordable, pourtant inaccessible désormais pour moi. Je compris la douloureuse signification du rideau de fer que j'avais à peine remarqué les années précédentes et qui était cependant toujours là. Alors il y a eu un premier interrogatoire au départ. Elle dit « Ils me posèrent d'étranges questions, si j'étais religieuse, si j'avais jamais possédé un titre de noblesse ou des décorations d'ordres nationaux ou ecclésiastiques, où j'avais appris mes connaissances en langue étrangère, à quelle organisation j'appartenais, quelles personnalités de Rome et du Vatican je connaissais et d'autres du même genre. Je répondis que j'étais une femme mariée, comme l'attestait mon passeport, que je n'appartenais à aucune organisation, que j'avais appris les langues par l'étude et la pratique, que je ne possédais ni titre de noblesse ni décoration et ne connaissais aucune personnalité. À certains vals de temps, d'autres personnes me posaient à nouveau les mêmes questions auxquelles je donnais toujours les mêmes réponses. On rédigeait un procès-verbal de tout cela et je devais en signer chaque page ainsi que ses copies. À mon grand étonnement, on me dit enfin que j'étais gravement soupçonné d'activité antinationale et qu'il fallait donc m'emprisonner. Car, dit textuellement le juge d'instruction, on était absolument certain qu'une libération conduirait à une tentative d'évasion. Et ensuite, elle a demandé pourquoi tout cela. Et arrive un procureur qui lui dit qu'elle avait le droit d'élever une protestation. Et elle ne voyait pas la nécessité. « Mais vous devez protester, dit l'interprète, d'un ton pressant et d'une voix tremblante. » C'était un vieux monsieur distingué, un personnage d'une autre époque. Comme je refusais à nouveau, il me regardait d'un air sérieux et, me semble-t-il, très compréhensif. Le procureur lui parlait maintenant. Il écoutait attentivement et traduisait lentement, actuant chaque mot. « Vous êtes donc d'accord avec votre sort ?» Ce mot « sort » avait ici son étrange et un son étrange et contenait, sans les dire, tant de choses déjà présentes. Perte de la liberté, abandon au bon plaisir des autres, incertitude continuelle, détachement total. Que disait la petite Bernadette Soubirous dans des circonstances semblables ? Dieu seul reste et Dieu suffit. Ma réponse à cette question fut celle-ci et je ne pouvais être différente. Elle ne pouvait être différente. Je remets mon sort entre les mains de Dieu. Puis-je traduire votre réponse pour le procès-verbal, me demande l'interprète. Faites-le, je vous en prie. Et il répéta lentement mes paroles et les traduisit. Dans la grande salle du tribunal, où il n'y avait que des bureaux, des machines à écrire et des secrétaires, durant quelques secondes, il se fit un grand silence. Puis les doigts des secrétaires crépitèrent à nouveau sur les machines à écrire et tapèrent le procès-verbal. Un autre passage significatif, c'est dans la période donc des interrogatoires. Donc, interrogatoire, comme elle disait, très pénible. Et elle raconte un petit fait à la suite d'un interrogatoire. Elle retourne donc dans sa cellule où elle y avait plusieurs personnes. 5, 6, 7, 8, jusqu'à 9 personnes. À mon retour, 4 pères Dieu m'interrogeaient. Et lorsque la porte fut close, Ivanka demanda « Doma ». À ce seul petit mot « Doma », je n'ai pas entendu plus souvent un autre mot dans la prison, Doma, à la maison, non Ivanka, pas Doma. Sur le lit de Slavinka se trouvait ma gamelle avec la ration de midi. Je ne pouvais rien avaler. Ivanka jeta le contenu dans les latrines. Seulement, à ce moment-là, je remarquai qu'il y avait encore autre chose sur le lit. C'était un tout petit rosaire composé de 10 petites et de 2 grandes perles de papier aluminium. Je n'en croyais pas mes yeux. Ô Slavinka, 1000 fois merci. Remercie plutôt Madame le professeur, car c'est elle qui a eu l'idée et qui a fait la plus grande partie du travail. Nous avons seulement recueilli le papier d'aluminium et Ivanka a donné les fils de son drap de lit déchiré. Le travail n'est pas parfait, car nous avons dû nous dépêcher pour pouvoir terminer avant ton retour. Nous voulions te faire la surprise. Ainsi, tu pourras prier plus facilement tes rosaires. J'étais profondément ému de cette touchante attention et je les remerciais toutes. Fais attention cependant, dit madame le professeur. Il ne faut pas que les gardiennes le découvrent, sinon il pourrait nous arriver malheur. Il nous était absolument interdit d'avoir un objet sur nous, un tel objet sur nous. Pas de problème, dit madame Kapulka. La mère de Dieu a voulu vous donner ce rosaire le jour de sa fête. C'est pourquoi il passera tous les contrôles. Lorsque vous aurez recouvré la liberté, apportez-le à Fatima en remerciant et priez pour nous. Ce petit fait du rosaire est émouvant. D'une part, Madame Tangari, dans ses mémoires, est très discrète. Elle ne parle pratiquement pas d'elle. Il n'y a que très peu d'extraits. Et on voit si ces femmes qui étaient emprisonnées avec elle lui ont fait son chapelet. Un chapelet, c'est bien qu'elle se rendait compte qu'elle priait constamment le chapelet. Elle lui parle, tu pourras prier plus facilement tes rosaires. Donc, ils avaient remarqué qu'elle priait beaucoup. Ils avaient fait avec du papier d'aluminium, celui qui est autour du chocolat, donc ce qu'ils pouvaient avoir en prison avec les moyens de bord. Et j'ai vu ce chapelet, elle l'a ramené quand elle a été libérée. Elle l'a conservé longtemps. Elle avait fait un petit cadre, comme on met pour des reliques. À l'intérieur, il y avait ce chapelet. Et lorsque je l'ai accompagnée, la dernière fois qu'elle a été à Fatima, ça devait être en 86, elle a pris avec elle ce chapelet et elle l'a déposé. Il me semble que c'est sur la tombe de Jacinta, de Jacinthe à Fatima. Encore deux autres passages. Alors c'est encore à l'occasion d'un interrogatoire. Sur la table se trouvaient tous les cadeaux de Pâques que je voulais apporter à mes amis. Vous avez apporté énormément de choses, me dit-il. Savez-vous que vous avez gravement lésé l'État ? Non, je ne le savais pas. Je n'aurais jamais pensé que l'on pût nuire à quelqu'un en apportant des cadeaux, puisque l'on manque de tout ici. Qui vous l'a dit ? Personne. Alors comment le savez-vous ? Mais cela se voit, à peine a-t-on traversé la frontière, que l'on voit les gens faire la queue devant les magasins. Assez. Vous avez importé illégalement de l'argent. Combien de couronnes chèques aviez-vous ? 6 500. Pourquoi ne l'avez-vous pas déclaré à la douane ? On ne m'en a pas laissé le temps. On m'a simplement tout pris immédiatement. Et lors de vos précédents voyages, n'avez-vous pas eu le temps de tout déclarer ? Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? Parce que personne ne nous l'a demandé. Seuls les voyageurs tchèques et yougoslaves furent contrôlés, mais pas nous qui venions de l'Ouest, bien que les douaniers aient su que nous ne venions pas les mains vides. Assez, m'interrompit le juge instructeur. Pour qui est ceci ? Demanda-t-il en me montrant une paire de pantoufles en fourrure. Pour l'organiste d'un chœur d'église. Il voulait savoir son nom et son adresse. Je l'ignorais. Et pour qui cela ? Il me montrait une grosse partition de messe de Haydn. Pour un chef d'orchestre presque aveugle. Nom et adresse, je les ignorais. Ainsi, vous achetez des choses coûteuses pour des gens que vous ne connaissez même pas, à d'autres. J'avais vraiment dit la vérité, car je n'avais jamais demandé nom et adresse à ceux qui avaient besoin de mon aide. J'étais seulement venu pour aider. Le reste ne m'intéressait pas. Ainsi, il était suffisant pour moi de savoir qu'un chef d'orchestre qui était presque aveugle et qui ne pouvait plus lire l'écriture normale avait besoin d'une partition agrandie. Mais le juge était incapable de comprendre et me prit d'emblée pour une menteuse. Il me posa encore maintes questions, et plusieurs fois la même pour vérifier mes réponses. Elles étaient toujours identiques. Tout fut noté dans un procès verbal. Finalement, le juge instructeur me reprocha d'avoir souvent apporté quantité de fleurs de Vienne et même des fleurs très chères. Pour qui étaient-elles ? Pour l'autel de l'enfant Jésus de Prague. Vous avez travaillé pour le Christ, s'écria le juge instructeur. Oui, je l'ai fait. Mais ce n'est pas interdit dans aucune nation civilisée. Toute civilisation civilisée à ses lois, répondit le juge. C'est qu'elle l'a porté à chaque fois qu'elle allait à Prague. Elle avait confié tout son apostolat pour aider les fidèles, et spécialement les prêtres derrière le rideau de fer, à l'enfant Jésus de Prague. Elle n'oubliait jamais, lorsqu'elle allait à Prague, de porter des fleurs. Et en mai dernier, j'ai eu l'occasion de me rendre le 1er mai à Prague. J'ai voulu ramener quelques souvenirs de cette chapelle de Prague. Pratiquement, il n'y a rien, quelques cartes postales et un petit dépliant où on représente l'enfant Jésus de Prague avec des habits divers. Il garde à Prague à peu près une 60 ou 70 habits de l'enfant Jésus divers qui étaient offerts ou par des princes chrétiens ou par différents pays ou des groupes de prière. Et ils ont fait un petit dépliant. Vers les années 68-69, et dans la dernière photo, s'il n'y a pas que l'enfant Jésus, il y a tout l'autel avec l'enfant Jésus. Et le père qui garde le sanctuaire m'a dit, vous savez, toutes ces roses, et il y a des roses sur tout l'autel, et m'a dit, c'est Madame Tangari qui nous avait portées. On a profité de l'occasion pour prendre une photo. Encore un passage ou deux. Allez, ensuite, on arrive au véritable motif, donc dans les interrogatoires de son arrestation. Suivirent des interrogatoires concernant l'édition tchèque de mon livre sur Padre Pio. Donc le livre qu'elle a écrit sur Padre Pio a été traduit en tchèque et distribué dans Tchécoslovaquie. On voulut connaître surtout le nom du traducteur et ne me crut pas lorsque j'ai dit que je l'ignorais. Comme j'étais heureuse de ne pas le connaître réellement. Il faut avoir vécu de l'autre côté pour comprendre une telle affirmation. L'ignorance ne pouvait être aussi fatale que la connaissance. Vous savez, je crois que je l'avais dit, elle ne raconte pas ça dans ses mémoires, malheureusement. Lors de son premier interrogatoire, où on voulait savoir surtout les noms des prêtres, la liste des prêtres qu'elle avait aidés, la pauvre s'est débrouillée comme elle a pu, pour ne pas trahir ses prêtres. Et elle a dit que si Padre Pio ne l'avait jamais aidée, de loin, disons. C'est que Padre Pio s'est manifesté souvent à ses filles spirituelles, ou par les fameux parfums, ou par des présences auprès des malades, des mourants, il s'est manifesté en bilocation, ou par d'autres formes, elle a dit, Padre Pio s'est jamais manifesté. Juste après cet interrogatoire, Padre Pio était déjà mort, elle a dit, j'ai reconnu la voix de Padre Pio qui m'a dit, tu es une menteuse, tu es une menteuse, tu es une menteuse. La pauvre, bien sûr, dans ses interrogatoires, avait essayé de ne pas trahir les prêtres. Elle avait arrangé les choses comme elle avait pu. Et elle avait dit, a répondu, c'est ce qu'elle m'a dit, « Eh bien, si tu ne veux pas que je mente, arrange-toi qu'on me pose des questions auxquelles je puisse toujours répondre la vérité. » Elle m'a dit qu'à partir de ce moment-là, elle a toujours pu répondre la vérité sans trahir un seul prêtre qu'elle avait connu lors de ses nombreux séjours en Tchécoslovaquie et dans d'autres pays de l'Est. Elle dit « Mon livre sur Padre Pio fut examiné à la loupe. L'édition tchèque portait le titre « Padre Pio comme je l'ai connu ». Le chapitre intitulé « Un pèlerin de Palerme fut condamné comme étant scandaleux ». Elle dit, je ne comprends pas, vous trouvez dans mon livre aucun mot, aucun passage offensant. Pourquoi le considérez-vous comme scandaleux? Il révèle une tendance politique tout à fait scandaleuse, mais il n'est nullement question de politique dans ce livre. Redites cela au juge lors du procès. Il vous donnera la réponse adéquate. Le juge d'instruction se leva et quitta la pièce. L'interprète regarda par la fenêtre, probablement pour éviter une discussion. J'eus le temps de réfléchir. Comment pouvait-on s'offusquer d'un chapitre aussi innocent? J'avais relaté l'histoire vraie d'un pèlerin tel que Padre Pio me l'avait raconté lui-même. Ce pèlerin, un ancien socialiste. Oh, tout à coup, j'ai saisi toute l'importance de ce seul petit mot qui avait tout déclenché. Ce socialiste, donc, avait perdu la foi et grâce à Padre Pio, il l'avait retrouvée. Plein de reconnaissance, il raconte son entrevue avec Padre Pio et son retour à la foi. C'était une simple manifestation de la foi, comme il y en a tant chez Padre Pio à San Giovanni Rotondo. Lorsque le juge d'instruction revient dans la pièce, il dit, probablement sur l'ordre de son supérieur, « Avec vos provocations, vous troublez l'épanouissement pacifique des idées politiques. Mais il n'y a point de provocation dans mon livre. Et comment qu'il y en a ? J'ai saisi à ce moment que nous vivions dans deux mondes totalement différents et parallèles qui ne se rencontreront jamais et entre lesquels il n'y a ni pont ni dialogue. Le juge semblait attendre une réponse et je lui dis « Voyez-vous, pour vous, tout est fondé sur la politique, tout est politique. Toute la vie est une affaire politique. Cela est votre conception de vie et j'essaye de vous comprendre. Mais je vous en prie, comprenez aussi ma position. Je ne peux pas réduire la vie à la politique. Elle est trop précieuse pour moi. Je ne puis concevoir la vie que dans la foi. » Alors on voit en même temps quel témoignage elle a eu, disons, de porter dans les tribunaux communistes le témoignage de sa foi. Elle dit « Contrairement à ses habitudes, le juge ne cria pas. Il me regarda pensivement. » Et sans dire un mot, il sonna le garde pour me faire ramener en cellule. Et ensuite, juste encore un mot, lors d'une rencontre qu'elle a eue avec l'avocat qui avait été nommé, parce que pour la parade, il nomme toujours un avocat pour la défense. Et on lui avait donné un papier au sujet de sa condamnation. Et alors elle dit, je lui montrai le document lui demandant de le traduire pour moi. C'était la condamnation écrite en tchèque. Il s'agissait en effet d'un avis du tribunal disant que la durée de ma détention préventive était illimitée et que les paragraphes des lois numéro 98 et 99 s'ajoutaient à ceux qui étaient déjà mentionnés dans mon acte d'accusation. Quels sont ces paragraphes 98 et 99 ? Demandai-je à l'avocat. Il feuilleta son code pénal et lut. Paragraphe 98. Renversement du gouvernement. Paragraphe 99. Grave offense à l'Union soviétique. Suivant les cas, il faut prévoir pour les deux une peine d'au moins 10 ans. Cette accusation me paraissait tellement absurde que je n'en mesurais pas toute l'ampleur. Elle n'avait pas de sens. Je compris pourtant que c'était le résultat des interrogatoires précédents. Ce qui m'étonnait, c'est le fait qu'on attribuait un tel danger à mon livre innocent sur Padre Pio. C'était incompréhensible pour notre mentalité. Voilà donc quelques faits sur la prison en Tchécoslovaquie qui peuvent nous faire comprendre, nous éclairer un peu sur sa personne. Puisque nous sommes dans ce temps de préparation à Pâques, de ce temps de carême, je vous donnerai quelques points. L'exemple qu'elle nous a laissé, surtout ce qui concerne la vie spirituelle, ou les leçons qu'elle a pu nous laisser. D'abord, la vie de prière. Bien sûr, on est étonné, on est dans la vie de Madame Tangari, ces moments de prison, de condamnation à mort. Disons qu'une fois, elle a fait 3 ans et demi de prison, donc au moment de la guerre, où elle avait été condamnée à mort. Et par sa prière et par sa défense, mais c'est sa défense qu'elle a soutenue elle-même en langue anglaise, mais qui était certainement aussi l'effet de sa prière, ils ont commué sa condamnation à mort en prison à perpétuité durant tout le temps de la guerre, donc elle est restée 3 ans et demi. Ensuite, il y a le fait que j'ai raconté en d'autres circonstances à Mariazell, où elle a été arrêtée par les soviétiques, et tous ceux qui ont été arrêtés à cette époque par les soviétiques dans cette région ont disparu. C'est la seule qui est arrivée à être libérée dans la journée même, d'une manière tout à fait miraculeuse. Et puis ensuite, ces 15 mois de prison en Tchécoslovaquie, bien sûr, cela nous impressionne, comme cet apostolat derrière le rideau de fer, passer 100 fois le rideau de fer, comme elle dit, souvent avec de nombreuses valises, en pouvant aller jusqu'à 15 valises. Eh bien, cet apostolat certainement fructueux qu'elle a eu derrière le rideau de fer, cet apostolat qu'elle aura après sa dernière prison auprès de la fraternité, l'aide extraordinaire qu'elle nous a portée, c'est avant tout le fruit d'une vie de prière. Elle a connu Padre Pio en 1950 et elle ira dans les pays de l'Est, je crois, la première fois en 64. On peut dire que Padre Pio, avant de la lancer dans l'apostolat, va la préparer pendant 14 ans par la prière et la pénitence. Et c'est à cause de sa persévérance dans la prière, dans une vie profondément chrétienne, dans une vie de grande souffrance, qu'ensuite elle aura un apostolat fructueux. Ne pensons pas que c'était un don particulier du Seigneur qu'elle a eu. Bien sûr que le Seigneur lui a fait des dons, mais c'est parce qu'elle a été fidèle. Son apostolat est en quelque sorte le trop-plein de sa vie spirituelle. Et elle a eu une vie de prière, je vous l'avais dit lorsque on a parlé de sa vie, intense. Elle assistait à plusieurs messes par jour, elle passait plusieurs heures dans les églises chaque jour. Et moment difficile dans sa vie, moment de grande pauvreté, où elle n'avait rien pour vivre. Ce sont une famille qui habitait pas loin, qui lui portait 2 fois par semaine le nécessaire, ou les plats, ce qu'elle avait pour la faire manger. Sans ça, elle mangeait et prenait un peu de pain et pas grand-chose. Alors c'est le fruit de sa prière et toute sa vie, elle va prier. Bien sûr, chaque jour, jusqu'à la fin de sa vie, elle priera. Et beaucoup ont été la voir pour lui demander des conseils, pour avoir ses lumières sur des difficultés. Des fois, elle répondait directement, ou des fois, elle disait « Ah, il faut prier ». Et au bout de quelques jours, ou lorsqu'on la revoyait, elle vous donnait les réponses, qui étaient fruit de sa prière, et des fois, je dirais, des réponses. Je ne peux pas raconter certains faits qui touchent des personnes qui sont encore en vie, mais des cas délicats dont je lui avais énoncé certainement seulement une partie de la situation et elle-même ne décrivait tout le reste, ce que je n'avais pas vu. Donc c'est le fruit dans sa prière, elle avait certainement des lumières particulières du bon Dieu. Une vie de prière et jusqu'à la fin de sa vie. On reparlera de ça tout à l'heure. Un point important dans sa vie, la messe. Que ça soit durant sa vie lorsqu'elle était à Naples, on voit ça dans ses cahiers qu'elle a écrits, qu'elle assistait souvent à plusieurs messes par jour. Que ça soit lorsqu'elle a connu Padre Pio, et vous savez qu'une des caractéristiques, on peut dire les 2 points les plus marquants de Padre Pio, c'est la confession et la messe. On allait à San Giovanni Rotondo pour assister à la messe de Padre Pio et pour se confesser. Et pour rien d'autre. C'était pas un prédicateur, il prêchait rarement. Et on allait pour se confesser et pour la messe. Alors, Madame Tangari avait cette dévotion dans la messe. Et lorsque des filles spirituelles ont demandé à Padre Pio Et elle-même raconte, vous avez ça dans son livre, un jour elle a donné son missel au père de Saint Giovanni Rotondo afin que Padre Pio lui mette une dédicace au début de son missel. Voilà ce qu'écrit Padre Pio. « Si tu veux assister à la Sainte Messe avec dévotion et fruit, tiens compagnie à Notre-Dame des Sept Douleurs au pied de la croix sur le calvaire. » En peu de mots, en deux lignes, Padre Pio nous montre quelle est la meilleure manière et en même temps la manière la plus fructueuse d'assister à la messe. Padre Pio, il ne fait pas de difficulté pour lui, c'est la messe, le calvaire, c'est la même chose. Et qui c'est le mieux uni au sacrifice de notre Seigneur, le Vendredi Saint, c'est bien la Sainte Vierge qui était là. Il n'y avait aucune âme, aucun cœur qui pouvait comprendre notre Seigneur mieux que sa mère. Alors c'est pour ça que Padre Pio, en nous disant cela, il nous dit « Lorsque vous assistez à la messe, cherchez à faire vôtre les sentiments qui étaient ceux de la Très Sainte Vierge lorsqu'elle assistait à la mort de son Fils sur la croix. » Et comme la messe, c'est la réactualisation du sacrifice de la croix, eh bien, si nous voulons assister avec profit à la messe, cherchons de nous approcher de la Très Sainte Vierge et de faire nôtre ses sentiments. Très belle explication, et c'est certainement quelque chose que Madame Tangari a vécu. Elle ne perdait, d'abord, avant de connaître Écône, donc elle assistait à plusieurs messes. Et lorsqu'elle a connu Écône, en sortant de prison, lorsqu'elle venait à Écône, ou elle venait à Albano, ou une maison de la fraternité, la règle, c'était, il faut assister à toutes les messes qui se disent dans la maison. Elle ne voulait jamais perdre une seule messe. Albano, il y a des époques où il y avait 3 ou 4 prêtres, et elle voulait assister à toutes ces messes. Elle dit, c'est trop précieux pour que nous puissions nous permettre de perdre une seule messe. Et lorsqu'elle venait à Écône pour les ordinations, elle assistait à plus de messes possibles, alors que les messes commencent à 4 heures du matin, le jour des ordinations, jusqu'au moment de l'ordination, plus ordination, elle ne voulait rien manquer. Et elle disait qu'il n'y avait pas de sacrifice trop grand pour assister au Saint-Sacrifice de la messe. Et elle qui habitait Naples et Albano, ça fait 180 kilomètres. Eh bien, lorsqu'elle pouvait, sa santé lui permettait, elle venait le dimanche. Au début, elle l'a fait par le train, après sa santé ne lui permettait pas, elle venait en voiture, un taxi, ou d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de sacrifice trop grand. La messe a une valeur infinie pour elle, il ne fallait pas perdre cette occasion. Et pendant plusieurs années, nous avons célébré la messe à Naples, dans un bureau qui se trouvait dans un vieil immeuble de Naples où il y avait un escalier très raide et il fallait monter, c'était au deuxième étage. Elle qui était asthmatique, qui avait des difficultés à monter l'escalier, elle offrait ça. Elle me dit, chaque marche est offerte à l'enfant Jésus. Et elle arrivait toujours avec ses fleurs sous le bras, son sac. Elle ne voulait pas qu'on lui porte les fleurs. Elle dit non, c'est mon cadeau, c'est mon moyen de participer au Saint-Sacrifice de la messe, il faut bien que je fasse un sacrifice si on veut que la messe porte des fruits. Elle avait cette grande dévotion pour la messe. Vous voyez. Et puis aussi faire célébrer des messes. Vous voyez. Quand elle voulait obtenir des grâces, où il y avait des difficultés, elle faisait célébrer des messes. Il est difficile de raconter encore actuellement, parce qu'il vit encore, les difficultés qu'elle a eues avec son mari, qui l'a quitté pratiquement en 1950, eh bien, n'a jamais cessé de prier pour la conversion de son mari. Et je pense qu'il vit encore, que bon, il a arrangé sa situation maintenant, puisqu'il nous a demandé de célébrer une messe pour l'anniversaire de Tangari, il est venu assister à la messe. Mais elle a fait célébrer, pas quelques messes, des centaines de messes. Il y avait des jours particuliers, entre autres, je ne sais pas pourquoi, mais le 6 août, le jour de la transfiguration, surtout si ça tombait un premier samedi du mois. Je me rappelle, une année, elle avait toutes les adresses des prêtres de la tradition, elle a fait célébrer plus de 150 messes ce jour-là pour la conversion de son mari. Oui, alors cet amour de la messe. Puis ensuite, tout son apostolat, vous voyez, qu'elle a fait auprès de la fraternité depuis, on peut dire, de 73-74 jusqu'à la fin de sa vie. Toute l'aide qu'elle apportait à la fraternité, c'était pour l'autel avant tout. Elle a été d'une générosité inimaginable pour tout ce qui pouvait embellir l'autel, aider à la célébration du sacrifice de la messe. Donc, les chandeliers, le crucifix, les calices, les ciboires, les ornements, le linge d'autel, on pouvait lui demander, elle ne refusait jamais rien pour cela. On pouvait lui parler qu'il y avait des besoins, des religieux s'installer. On dirait que ça ne rentrait pas dans les oreilles. Mais vous demandez pour l'autel, n'importe où dans le monde, tout de suite elle faisait faire les ornements, et tout ça, elle envoyait ça tout de suite. Tout ce qui favorisait la messe. Et elle disait que maintenant, pratiquement, la fraternité est installée dans le monde entier, il y a des autels dans le monde entier, et c'est comme si Monseigneur, avec son œuvre, avait enveloppé le monde comme un filet spirituel. Vous voyez, les messes, maintenant, sont dans le monde entier, c'est ce qui permettra le renouveau, ils disent, le salut du monde. Alors, cette très grande dévotion dans la messe, et cela doit nous aider, bien sûr, pour nous-mêmes, savoir profiter, assister avec les sentiments voulus à la Sainte Messe, et puis profiter, ne pas manquer de messe lorsque nous pouvons assister à la messe. Et même si cela nous demande des sacrifices. Elle l'expliquait très bien, elle a dit, mais qu'est-ce que c'est qu'une messe où nous assistons si nous ne portons pas notre part de sacrifice? C'est pour ça que d'une manière ou d'une autre, c'est les messes auxquelles elle assistait, où elle venait elle-même à Albano, ce qui lui faisait comme un long voyage, où elle venait à Naples, ou lorsqu'on était chez elle, il fallait toujours qu'elle fasse un geste, ou pour la fraternité, en disant, c'est mon moyen de m'unir au sacrifice de notre Seigneur. Il faut que je fasse quelque chose chaque fois que j'ai la Sainte Messe. Alors, lorsque nous plaignons que à la messe, des fois, c'est loin, ou... Oui, c'est vrai, mais c'est un moyen aussi, la messe est un sacrifice. C'est notre moyen de participer, de nous unir au sacrifice de notre Seigneur. Un autre point important dans sa vie, certainement, c'est la confession. On n'a pas le temps de lire, vous connaissez ça dans son livre, lorsqu'elle raconte... Elle avait commencé à entendre parler de Padre Pio, elle n'avait pas encore rencontré Padre Pio, mais elle voulait se préparer à aller à San Giovanni Rotondo. Ensuite, c'était l'année sainte, ensuite elle entrait dans le tiers-ordre dominicain. Elle avait décidé de faire une confession générale suite à ce qu'elle avait lu dans un livre qui parlait de Padre Pio. Et elle avait lu que Padre Pio faisait souvent réciter à ses pénitents la prière suivante. « Mon passé, Seigneur, à ta miséricorde. Mon présent, à ton amour. Mon avenir, à ta providence. » Et cela lui avait donné comme une force intérieure. Elle avait décidé de faire une confession générale de toute sa vie. Ce serait trop long à lire, mais il y a tout ce beau chapitre où elle raconte qu'elle va à Pompéi en pèlerinage pour faire cette confession. Elle avait connu un père il y a longtemps, ce Monseigneur Giliberti. Elle demande au sacristain de rencontrer, et le sacristain lui a dit, mais ma pauvre dame, vous savez, il y a longtemps qu'il ne confesse plus, il ne descend plus de sa chambre, il souffre du cœur. Alors elle, un peu un peu surprise, revient pour faire remettre un livre à Monseigneur Giliberti. Alors elle revient à la sacristie, elle ne trouve plus le sacristain, mais elle trouve un prêtre. Elle donne à ce prêtre, lui demandant ce que vous pouvez me porter ça, il vivait au-dessus du dans la maison, à côté du sanctuaire. Alors le prêtre monte, et grande surprise, elle lui dit qu'il lui annonce que Monseigneur Giliberti va descendre la confesser. Dans la basilique, elle se met à côté du confessionnal. Un père rédemptoriste qui était au confessionnal à côté lui dit « Mais qu'est-ce que vous attendez ?» dit, mais j'attends, Monseigneur Gilbertier. Il dit, mais il y a longtemps, ça fait bien longtemps qu'il ne confesse plus. Et puis il descend, il la confesse, et il l'a dit lui-même que de cette confession générale, de même temps guéri, il a été guéri, puisqu'il a repris son ministère ensuite de confesseur dans la basilique de Notre-Dame de Pompéi. Ce qui est un exemple pour nous dans ce que nous dit Madame Tangari sur ses confessions. Elle dit « De nombreuses confessions au Padre Pio, donc suivirent la première dont j'ai déjà fait mention. » Elle dit « Je me suis préparé à chacune d'elles par la prière. » Vous voyez, elle se préparait à ses confessions, non seulement par un examen de conscience, mais par la prière. Elle raconte, je crois, dans un autre passage de ce livre, que souvent elle se préparait par une neuvaine à ses confessions. Elle faisait une neuvaine à Saint-Michel-Archange, et elle dit, ce fait très curieux, que lorsqu'elle allait se confesser à Padre Pio, c'est que les confessions étaient très brèves, quelques minutes, on n'avait pas le temps beaucoup de parler avec Padre Pio, lorsqu'elle faisait par exemple une neuvaine à Saint-Michel-Archange pour bien se confesser, se préparer à la confession, Padre Pio lui donnait comme pénitence une neuvaine à Saint-Michel-Archange. Alors elle n'avait rien dit à Padre Pio sur cette neuvaine. Et elle dit que d'autres pénitences qui se préparaient aussi par des neuvaines avaient souvent la même neuvaine comme pénitence. Mais elle se préparait toujours avec la prière. Et je pense aussi à un autre fait, c'est qu'elle savait ensuite, après la confession, non seulement faire la pénitence qui lui était demandée, mais aussi faire une action de grâce. Et je pense que ça aussi c'est important, c'est une leçon pour nous. Savoir remercier notre Seigneur des grâces que nous recevons durant la confession. Ne soyons pas ingrats. Ne demandons pas toujours au Seigneur, et lorsque nous avons reçu, eh bien, nous oublions de remercier. Elle avait toujours ce fait de savoir remercier, nous aurons l'occasion d'en reparler, mais elle savait remercier. Et puis toujours se confesser avec régularité, une grande humilité. Oui. Ensuite, certainement, ce qui marque dans sa vie, c'est cette confiance en la Providence. Oui. Elle cite un fait, mais on pourra en citer bien d'autres dans sa vie. Alors elle venait de se confesser à Padre Pio et disait « Une foule de fidèles attendait dans l'église que Padre Pio termine les confessions et vienne distribuer la Sainte Communion. Je me plaçais moi aussi dans la file. Là, je m'aperçus que j'avais oublié ma bourse avec l'argent dans la voiture des amis avec qui j'étais venu à San Giovanni Rotondo pour me confesser, ayant l'intention de partir ensuite pour Naples avec le rapide de l'après-midi. Mais je demeurais sans argent. Quoique cette situation ne fût pas agréable, je ne voulus pas trop m'en préoccuper. J'étais encore trop prise par les impressions de la confession et je désirais uniquement faire une bonne préparation à la Sainte Communion. Pour le reste, je pourrais y penser après. Cependant, en cherchant mon rosaire dans ma poche, je trouvais quelques pièces de 100 lire. Pour les frais du voyage de retour, elles ne pouvaient suffire. Je pensais donc de les donner en aumône. J'allais tout de suite près de l'autel de Saint-Antoine et je mis ces sous dans le tronc des offrandes, confiant de ce fait mon voyage de retour à la Providence. Et comme si la Providence avait seulement entendu mon petit acte de foi, je reçus peu après, de façon tout à fait inattendue, l'aide espérée. Mon amie, toute contente de cette rencontre inopinée à San Giovanni Rotondo, me dit « Si tu n'as plus rien à faire ici, viens déjeuner avec nous et nous pourrons ensemble retourner à Naples. Nous sommes seuls, mon mari et moi. Il y a donc bien de la place pour toi dans la voiture. » Ce fut une belle surprise pour moi. Bon, elle raconte que cette amie ne voulait plus retourner par Padre Pio. Alors elle explique pourquoi elle était revenue. Vous Je narrai à mon ami pourquoi je me trouvais là, et nous y vîmes une disposition de la Providence, parce que son ami lui a dit qu'il avait vu à côté de l'autel de Saint-Antoine. Thérèse ajouta que de semblables coïncidences providentielles arrivaient plus facilement dans le voisinage de Padre Pio que partout ailleurs, et qu'il y était pour quelque chose. Alors il dit ensuite, « Nous eûmes ensuite la joie de voir Padre Pio dans le couloir du couvent. Nous lui souhaitâmes bonne Pâque, et il nous donna sa bénédiction. En le saluant, je lui dis, Padre Pio, merci pour tout. De quoi me remercies-tu ? Me demanda-t-il à sa manière rude et franche. Souviens-toi plutôt, qui fait la charité, trouve la charité. » Oui, bon, là, dans sa vie, et on pourrait dire toute sa vie, où elle a vécu dans une grande pauvreté, elle vivait d'une confiance extraordinaire dans la Providence. Et je dirais, elle vivait avec la Providence. Je dirais, trop souvent, nous inquiétons de l'avenir. Il y a des difficultés, nous demandons comment nous allons arriver à résoudre ces difficultés. Combien de fois elle m'a dit, laissons faire la Providence. Elle répétait, laissons faire la Providence. N'anticipons pas la Providence, laissons faire. Si le bon Dieu a permis que nous soyons dans telle ou telle situation, eh bien, il nous donnera les moyens de sortir de cette situation. Alors, c'est facile à dire, c'est plus difficile à vivre. Et on peut dire qu'elle a vécu de cette confiance en la Providence. Pour sa vie de tous les jours, on pourrait citer des tas de faits. Je me souviens de la dernière année de sa vie, une de nos fidèles de Naples, un jour, sachant qu'elle ne mangeait jamais de viande, mais a été lui porter un poisson. Elle lui a fait tout simplement, elle a dit, « Oh, j'avais plus rien à la maison. C'est la Providence qui m'apporte ça. » Elle ne se préoccupait jamais. Elle vivait de ce qu'on lui apportait. Et tout son apostolat, on peut dire, tout son apostolat a été remis à la Providence. Je vous ai dit qu'elle a aider d'une manière extraordinaire la fraternité, non seulement en Europe, mais je peux dire dans tous les continents où la fraternité a des maisons. Donc, en ornement, calice, ciboire, ostensoire, chandelier d'autel, etc. Ça représentait des sommes considérables et s'est jamais préoccupé. Moi, j'étais souvent me demander pour les lettres en français de lui traduire, parce qu'avec le français, elle n'était pas tellement d'accord. Elle me demandait de lui traduire. Moi, j'étais gêné parce que les prêtres faisaient des listes impressionnantes d'objets de culte, d'ornements. Alors, je lui dis, Madame Tanguay, je crois que c'est un peu abusé. Faut aller à l'essentiel. Mais elle me dit, mais non. Elle me dit, plus vous me demanderez, plus la Providence m'aidera. Si vous ne me demandez rien, la Providence ne m'aide pas. Et elle avait cette confiance absolue dans la Providence. Et toute sa vie a été comme ça. Alors, qu'on pourrait, tout son apostolat derrière le rideau de fer a été basé sur la Providence. Lorsqu'elle est partie la première fois en Tchécoslovaquie, elle n'avait pas une adresse, elle ne connaissait personne. Elle a été droit au sanctuaire de l'enfant Jésus de Prague, elle a passé 2 jours de prière là pour lui confier son apostolat. Et de là, elle a connu un nombre considérable de prêtres qu'elle a aidés, qu'elle a été voir dans les campagnes, dans des coins complètement perdus. Ensuite, elle a passé la frontière polonaise. Cette confiance dans la Providence, et je pense que cela est important pour nous. Des fois, nous ne faisons pas le bien que l'on pourrait faire parce que nous n'avons pas cette confiance en la Providence. Nous avons peur. Nous comptons trop sur le côté humain des choses, surtout dans les difficultés. Et on peut dire, elle en a passé des difficultés. Faisons confiance au bon Dieu. Au moment voulu, le bon Dieu va nous trouver les solutions. N'anticipons pas. Laissons, comme elle disait, laissons faire la Providence. Et si nous avions plus cette attitude d'âme vers la divine Providence, nous verrions que beaucoup de problèmes, eh bien, d'eux-mêmes, arrivent à se résoudre. Si bien sûr nous faisons notre devoir. Alors, elle avait cette confiance en la Providence. Et puis ensuite, si elle avait cette confiance totale dans la Providence, qui, on faut le dire, l'a gratifiée d'une manière toute particulière, lui a permis cet apostolat, elle savait aussi remercier, oui, l'action de grâce. Elle savait remercier. Elle faisait dire des messes en action de grâce des dons qu'elle avait reçus du bon Dieu. Nous ne savons pas assez remercier. Nous savons demander, nous insistons, mais il serait logique que nos prières de demande et ensuite nos prières d'action de grâce soient proportionnées. Plus nous demandons, plus le Seigneur nous exauce, plus nous devrions le remercier. Souvent, nos actions de grâce sont bien brèves. Alors, sachons remercier. Et elle, lorsqu'elle recevait des dons du Seigneur, des protections particulières, ce n'était pas simplement des actions de grâce vocales. Souvent, elle faisait des dons. Je vous ai raconté peut-être déjà ce fait lorsqu'elle était à Naples. Un soir, c'était à l'époque après les tremblements de terre des années 80, où Naples a été abîmée. Un soir, comme elle a l'habitude, elle sortait, donc elle avait une maison où il y avait, sur la façade où il y avait un balcon, il y avait deux fenêtres. Et là, elle sortait pour aller sur le balcon pour tirer les volets. Et un soir, en allant dans une de ses pièces pour sortir, tirer ses volets, elle a vu sur la table, l'angle de la table, une image de la Vierge de Guadeloupe, du Mexique. Elle a pris l'image, elle a dit « Qui a mis ça? J'ai jamais eu ça chez moi. » Elle était surprise. Elle a regardé l'image, elle a lu la prière. Pendant qu'elle était en train de lire la prière, il y a un bloc de la corniche qui était au-dessus de son balcon, du toit qui est tombé sur son balcon. Elle a dit, c'est clair, si j'avais été là à ce moment-là, j'aurais été tué par ce bloc de ciment qui est tombé sur son balcon. Comment elle a interprété ça? Elle a dit, c'est la Sainte Vierge de Guadeloupe qui m'a protégé. S'il n'y avait pas eu cette image de la Vierge là, d'une manière providentielle, eh bien, j'aurais été tué. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Le lendemain, sachant qu'on avait déjà un prieuré à Mexico, elle a fait faire un très bel ornement à la Vierge. C'est dans ces pays espagnols, les fêtes de la Vierge, on peut mettre des ornements bleus. Elle a fait faire un très très bel ornement couleur céleste qu'elle a envoyé au Mexique après. Elle faisait des cadeaux. C'était un ornement, non seulement la chasuble, mais avec diacre, sous-diacre, avec les chapes nécessaires, tout un ornement complet. Et elle remerciait toujours d'une manière proportionnée aux grâces reçues. Alors ça, c'est aussi très beau chez elle, et je dirais, ça, nous allons revenir là-dessus. Elle disait que Padre Pio l'avait formée, elle aurait voulu écrire quelque chose là-dessus, malheureusement elle n'a pas eu le temps, qu'elle l'a guidée par ces trois points, savoir accepter, offrir et remercier. Accepter tout ce que nous envoie le Seigneur, que ça soit agréable ou désagréable. Les épreuves, les croix, il faut savoir les accepter. Et pas simplement les porter. Elle disait, lorsqu'on porte une croix, elle devient lourde. Lorsqu'on sait l'accepter, c'est déjà beaucoup plus léger. Alors, savoir accepter, sans protester, sans manifester mécontentement, sans se plaindre, accepter cela comme un don du bon Dieu. Première chose. Ensuite, savoir offrir. C'est une chose, savoir accepter. Mais savoir offrir, surtout les épreuves qui nous arrivent. Voir en cela un don du bon Dieu. C'est la deuxième étape dans notre vie spirituelle. D'abord, savoir accepter les épreuves, savoir les offrir. Et troisièmement, savoir remercier le bon Dieu des épreuves qu'il nous envoie. Il disait que Padre Pio l'avait formé à ça. Et je dois dire qu'à la fin de sa vie, elle a eu des épreuves, puisque la pauvre, physiquement, elle est tombée, s'est cassée le col du fémur, a été opérée. Toute la fin, les derniers mois qu'elle a passé sur un lit de douleur, on peut dire, elle a énormément souffert, parce qu'elle avait des plaies dans le dos, et tout, on était obligé de la soigner complètement, elle ne pouvait plus bouger d'elle-même. Elle ne cessait de remercier le bon Dieu. Et lorsqu'elle est tombée dans sa chambre à Albano, à la fin juillet 89, j'étais par là, on m'a appelé, je suis arrivé une demi-heure après, ils avaient eu le temps de la mettre sur son lit. Et me dit, Abbé Duchalard, il n'y a plus qu'une seule chose, c'est de remercier le bon Dieu. Tout est grâce. Alors qu'elle avait le col du fémur et souffrait terriblement. Ensuite, a conduit à l'hôpital. On l'a opéré. Après l'opération, elle m'a dit, il faut savoir remercier le bon Dieu. Tout ça, ce sont des grâces du bon Dieu. Oui. Et ensuite, je dirais, les derniers mois de sa vie, il les a offerts pour Monseigneur, pour l'œuvre de Monseigneur. Et elle a aussi, surtout, elle remerciait Monseigneur Lefebvre pour il nous disait, Monseigneur Lefebvre est le seul archevêque au monde qui nous ait permis de conserver intégralement la foi. Et on ne saura jamais assez le remercier pour cela. Et puis savoir aussi remercier de Monseigneur d'avoir eu le courage de faire les sacres. Et on peut dire que les derniers mois de sa vie ont été pour ça. Et elle disait aussi qu'elle... cette sérénité, et c'est clair, de cette personne, lorsqu'on l'a fréquentée, il y avait toujours cette paix qu'elle transmettait autour d'elle. Elle l'avait appris de Padre Pio. Padre Pio lui avait dit, porte tout en paix. Quoi qu'il arrive, il faut le savoir accepter et conserver cette paix de l'âme. C'est sûr que savoir garder la paix dans son âme, quoi qu'il arrive, montre déjà, bien sûr, une élévation dans la vie spirituelle. Ne pas se laisser troubler par les épreuves. Bien sûr que souvent, lorsqu'on a des épreuves, dans un premier moment, on est troublé. Il faut un certain temps pour retrouver la paix intérieure. Eh bien, Padre Pio lui avait dit, porte tout en paix. Quoi qu'il arrive, il faut conserver la paix. Nous savons que sans la paix dans l'âme, bien sûr, il n'y a plus l'union avec Dieu. Tout devient plus difficile. Et c'est certainement une des leçons qu'elle a su nous donner. Alors je crois qu'il faut essayer, comme disait M. l'abbé Marais, souvent on parle des saints, on lit la vie des saints, on dit, oh, c'est des gens, ils ont vécu une autre époque. Madame Tangari, ça fait un peu plus d'un an qu'elle nous a quittés. Elle a vécu au milieu de nous. On l'a vu prier. Et puis, on l'a vu accomplir un apostolat tout à fait extraordinaire dans des conditions difficiles, avec des moyens humainement qu'elle n'avait pas. Donc, le Seigneur l'a aidé d'une manière tout à fait exceptionnelle. Et il ne faut pas croire que parce qu'elle a fait cet apostolat, qu'elle n'avait pas de difficultés. Elle m'a dit une fois, justement, c'était la première prison qu'elle a faite pendant la guerre, qui a une période où la prière lui était très difficile. Elle avait du mal à prier. Mais elle a persévéré dans sa prière. Alors, qu'elle soit pour nous un modèle, un encouragement. Et puis, je crois qu'on peut lui demander de nous aider. Nous pouvons la prier. Et je pense qu'elle a déjà obtenu un certain nombre de grâces. On a eu quelques témoignages. Si elle a fait du bien sur cette terre, et on ne saura jamais à combien de personnes, parce qu'elle était très discrète, elle avait une énorme correspondance, et elle recevait les dernières années de sa vie, elle passait une partie de sa journée au téléphone. On lui téléphonait pour avoir des conseils pour les gens en difficulté, voulait avoir lui demander ses prières. Et on ne saura jamais, on ne connaît pas tout ce qu'elle a fait, surtout derrière le rideau de fer, où elle n'a laissé aucun papier pour que ses prêtres ne puissent pas être trahis. Alors si elle a fait tout ce bien sur cette terre, je pense qu'elle ne peut que continuer au ciel pour nous. Alors elle a connu la tradition, elle a vécu au milieu de nous. Les temps sont difficiles, le risque est encore difficile. Elle a toujours gardé cette tranquillité, cette sérénité. Face à tous les événements, tout ce qui est arrivé à Icône, toujours la même sérénité, la même paix. Sachons lui demander de nous donner aussi cette paix, cette sérénité dans les événements, pour être fidèle à notre foi, ce qu'il disait. Monseigneur nous a donné cette possibilité de garder intégralement la foi. La foi, c'est un don, et un don de Dieu, et la foi ne peut être qu'intégrale. On ne peut rien toucher à la foi, sans ça on perd la foi. Alors demandons-lui, dans l'époque où nous vivons, de nous aider à conserver cette foi.